La bonne nouvelle de Pâques tient en trois mots. Christ est vivant. Ça devrait être simple. Et pourtant, ça ne l'est pas. Le christianisme est loin d'être homogène dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs. Et on trouve des chrétiens qui sont d'authentiques chrétiens et qui pourtant croient dans la résurrection du Christ de manière très différente. Pour certains, la base fondamentale, c'est de croire dans une résurrection corporelle, physique, matérielle de Jésus. Jésus qui se relève, enlève ses bandelettes et va à la rencontre de ses disciples pour manger des poissons avec eux et montrer ses plaies. D'autres préfèrent voir dans ces récits une expression imagée d'une expérience spirituelle des disciples qui découvrent qu'en fait, Jésus est peut-être mort physiquement, mais qu'il continue de les accompagner spirituellement par son enseignement. Et sans doute que la majorité ne sait pas très bien et penche sans approfondir la question vers une résurrection pas tout à fait corporelle et pas seulement spirituelle. Eh bien, je ne sais pas s'il faut trancher. Après tout, l'Inquisition n'existe plus et il est bon que les chrétiens apprennent à vivre ensemble sans forcément toujours penser pareil. Le protestantisme admet une grande diversité et il faut la maintenir au risque, sinon, de devenir sectaire. Mais alors, que pouvons-nous dire de certain et de fort sur la question? Plusieurs choses tout de même. La première, c'est le point d'accord entre tous les évangiles, le tombeau vide. La bonne nouvelle de Pâques, c'est qu'il n'y a pas de cadavre du Christ. Le Christ est vivant, certainement, mais pas dans un cadavre, pas dans une tombe. Et nous en arrivons à ce paradoxe. La présence réelle du Christ est en fait une sorte d'absence réelle. Le tombeau est vide. « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, dit l'ange aux disciples. » Et c'est déjà une bonne nouvelle pour nous, parce que cela nous montre que la mort ou le tombeau est incapable de retenir l'essentiel. La mort croyait retenir Jésus dans ses liens, mais elle ne garde qu'un suaire vide. Jésus échappe, la mort glisse sur le Christ sans pouvoir l'attraper. Et c'est pourquoi aussi, dans les temples réformés, quand il y a des croix, elles sont vides, sans crucifix. La croix est vide, Jésus a échappé, la violence, la mesquinerie, la trahison, la passion, l'épreuve, la torture, tout cela est vaincu et n'atteint pas le Christ, ni ce qui, en nous, est uni à lui. Et puis après, ça devient plus compliqué. Encore que le problème, certainement, vient de ce que la plupart des gens confondent apparition et résurrection. Or, ce n'est pas la même chose. Et il ne faut certainement pas réduire l'un à l'autre. Les apparitions, d'après Luc, concernent les disciples entre Pâques et l'Ascension 40 jours plus tard. Après, il n'y a plus d'apparition normalement. Mais la résurrection ne s'arrête pas pour autant. La résurrection, c'est que aujourd'hui, Christ est vivant. Et on ne dit pas à Pâques, Christ a été ressuscité pour 40 jours, et maintenant il ne l'est plus. Mais on dit bien, Christ est ressuscité, il est vivant, aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, c'est donc le mode avec lequel ce Christ est ressuscité pour aujourd'hui. Comment il peut être présent aujourd'hui, parmi nous. Or là, personne n'attend de rencontrer physiquement Jésus au coin d'une rue pour manger un poisson avec lui. Et quand Jésus dit « Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux », nous le croyons et nous l'expérimentons sans cesse, mais pas physiquement, bien sûr. Et je ne sais pas comment le Christ est apparu aux disciples. Mais je crois que le centre de notre foi, c'est comment il peut nous apparaître à nous aujourd'hui. Et bien sûr que son mode de présence aujourd'hui est spirituel. Il est présent par son esprit, par son enseignement, son évangile qui nous fait vivre. Et réduire la résurrection aux apparitions du début serait une grave erreur. Parce qu'alors, cette bonne nouvelle ne nous concernerait pas. Qu'est-ce que ça peut me faire que Jésus soit apparu à l'un ou à l'autre s'il ne m'apparaît pas à moi? Certes, on peut être heureux pour les disciples qu'ils aient vu Jésus, mais le christianisme n'est pas une religion de voyeurs et on ne peut pas vivre sa foi par procuration. La bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les apôtres, mais pour nous. Et pas que pour les 40 premiers jours, mais pour tous les temps, dont le nôtre. Donc ces récits d'apparition nous égarent et finalement nous éloignent de la bonne nouvelle. Ils ne sont pas plus en mesure de nous donner de l'espérance que le récit d'un festin fait par d'autres il y a 2000 ans ne pourrait nous nourrir concrètement. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, pour toi, aujourd'hui, ici, maintenant, Christ est ressuscité. Il est vivant, il est avec toi et il marche à tes côtés. Il te parle, il te console, il te soutient. Et ça, c'est vrai, c'est réel, parce que moi, je le vis, d'autres le vivent, et vous, vous pouvez le vivre. Alors, me direz-vous, mais où est le corps du Christ? Eh bien, je n'en sais rien, et nous n'en avons pas besoin. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui fait vivre, a-t-il dit lui-même. Et l'esprit, ça n'est pas rien. Dieu est esprit et il n'est pas rien. Ce Christ ressuscité aujourd'hui, il est esprit, il est vie, il est espérance, foi, paix et amour. Merci Seigneur. Quant au corps, c'est peut-être Paul qui nous donne la réponse. Vous êtes le corps du Christ, a-t-il dit. Le corps, c'est ce qui permet d'agir concrètement, matériellement dans le monde. Et aujourd'hui, le corps du Christ, ce sont les chrétiens, ceux qui croient dans sa parole, ceux qui veulent se mettre à son service. Christ est vivant pour nous et en nous. Et quand Christ vit en moi, je deviens son corps, sa puissance d'action dans le monde, sa bouche pour parler, pour pardonner, pour bénir, et ses mains pour agir, pour donner, pour guérir. Donc oui, Christ est ressuscité et il a un corps. Et aujourd'hui, sa résurrection, elle est spirituelle et son corps, c'est nous. Mais alors, que ferons-nous des récits d'apparition? Puisque, aussi merveilleux qu'il soit, il semble ne plus nous concerner directement depuis l'ascension. Là aussi, la question est délicate. Et elle a été un sujet de grand débat dans le sein même du protestantisme entre les libéraux et les orthodoxes. Aujourd'hui, la dispute est close. Tout simplement en disant que ce qui s'est passé à l'époque, historiquement, en fait, peu importe. On peut croire un peu ce que l'on veut, puisque nous n'y sommes pas et que cela ne nous concerne pas directement. L'important, c'est qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire à nous aujourd'hui. Et pour ça, le grand principe interprétatif de l'Écriture, c'est de se dire que dans chaque texte, ce texte parle de moi, ici et maintenant. Et donc, ce que j'y lis, c'est le récit de ce que je peux expérimenter dans ma foi, là, tout de suite. Alors, bien sûr, ça demande souvent de faire un petit travail d'interprétation du texte. Et puisque, aujourd'hui, je n'attends pas de rencontrer le Christ ressuscité en chair et en os, mais spirituellement, il me faut réinterpréter spirituellement tous ces récits. Et alors, ils peuvent nous parler merveilleusement. Les pèlerins d'Emmaüs, par exemple, ce sont vous. Et c'est moi, quand je marche, parfois tout triste, me croyant.